Tov Shavuot Tov, on est dimanche matin. On est le 25 janvier, on est le 29 Tevet, Erev Rosh Chodesh, Shvat. On est dans le Derech Mitzvotecha, la page 265. Et on est 4-5 lignes avant la fin du premier paragraphe. Et on commence. Veimken, à la fin de la phrase. Veimken, Zeshenitosef Bebiya. Shanivra nire yesh vedabar vedavar bifne atzmo. Et donc il y a un chidush, il y a quelque chose qui s'est rajouté dans les trois mondes, Bria, Yetzira et Asiya, ce qui n'était pas le cas dans le premier monde qui est le monde de Hatzilut. On a vu que le monde de Hatzilut est un monde complètement transparent et la créature a totalement conscience de sa source créatrice. Mais à partir des trois mondes qui suivent, qui sont Bria, Yetzira et Asiya, il y a déjà une opacité qui se crée. Chez Netosev et Bria, chez Anivra, Nira, Yesh, que la créature se sent déjà comme quelque chose qui existe en tant que tel. Vedavar bifne atzmo, kiilu eno itpashtut achayut varuchaniyut. Et il ne sent plus que se répand, la créature ne sent plus que se répand en elle. Donc l'énergie spirituelle, l'énergie divine, keit pashtut aziv ve'ahor me'ashemesh, comme un rayon de soleil qui émane du soleil, il ne sent plus ça. Et là où davar bifne atzmo, mais il se ressent comme une chose, comme une réalité en tant que telle, ou behemet eno davar bifne atzmo, bien qu'on sait que la vérité ce n'est pas comme ça. C'est pour ça que nos maîtres disent que ce monde, le nôtre, qui est le dernier de tous, donc le plus opaque de tous, s'appelle Alma de Shikra, le monde du mensonge. Pourquoi le monde du mensonge? Parce que à partir du moment où dans ce monde tu te perçois et tu perçois chaque chose qui t'entoure comme une réalité coupée, séparée de sa source créatrice, c'est déjà en soi un mensonge, puisque c'est pas vrai, c'est pas comme ça que sont les choses. Et si on pouvait voir la vérité vraie, on se rendrait compte que nos sens nous trompent complètement. Et on sait que nos sens nous trompent, on n'imagine pas combien ils nous trompent, des milliards de fois de plus de ce qu'on a déjà découvert. Ou behemet eino davar bifne atzmo, et là kemo itpash tuta or me hashemesh, mais toute la réalité même ici bas n'est que comme un rayon qui sort de sa source. Iné esterze, maintenant ce voile, cette opacité, ce ester là, ou mechamat midat gvurato, provient de la svira de l'attribut divin appelé gvura, appelé rigueur, appelé contraction. Les astir, cette contraction, cet attribut, donc c'est une force divine qui contracte la source et ne permet pas à la source de se dévoiler. Mechamat midat gvurato, les astir ou les alim, et donc la source est voilée, la source est cachée. Vezeu inyan baruch shem kevod malchuto leolam vaed. Et c'est ce que nous disons lorsque, tout de suite après, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, on dit baruch shem kevod malchuto leolam vaed. C'est-à-dire, on proclame donc, et on sait qu'on le dit à voix basse, pour montrer qu'il y a, on pourrait dire, une diminution de lumière, et on proclame que la royauté d'Hachem se trouve présente dans tous les mondes, qui binyan la malchut ou mergvurot, les filles, et on sait que la malchut, la royauté, est construite grâce à la gvura, grâce à la contraction, les fiches en meler beloam, parce qu'il n'y a pas de roi sans peuple, d'ainu, c'est-à-dire nifradim dafka, c'est-à-dire des créatures qui sont nifradim, qui sont distantes malgré tout. On sait très bien que le rapport entre un roi et son peuple est un rapport extrêmement fragile, extrêmement, on pourrait dire, chavir, fragile, oui. Parce qu'à n'importe quel moment, ça peut exploser. Si le roi est trop proche, alors il ne reçoit plus le respect qui lui est dû. Si le roi est trop loin et trop dur, alors il engendre une volonté de révolte jusqu'à la révolte elle-même. Rien n'est plus dur à gérer que la relation entre un dirigeant et son peuple, comme on le sait. De toutes les relations humaines, c'est la plus complexe de toutes. Pourquoi ? Parce que le roi et le peuple doivent toujours trouver, le dirigeant et le peuple doivent toujours trouver le juste milieu au niveau duquel ils se supportent, ils s'acceptent, ils s'admirent et ils se respectent. Parce que le roi, le dirigeant, doit bien sûr admirer et respecter son peuple, parce que sans le peuple, qu'est-ce qu'il est lui? Et si le peuple sent qu'il n'est pas respecté, alors il se révolte. D'un autre côté, le peuple doit respecter et admirer son dirigeant. S'il ne l'admire pas, alors évidemment il n'en veut plus. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. En vérité, comme expliquent les maîtres, la seule autre relation, à part celle d'un dirigeant et d'un peuple, où on retrouve quelque chose de la relation dirigeant-peuple, c'est homme-femme. une femme, comment ?
Père-fils.
Et non, justement, je vais expliquer pourquoi. C'est ce qu'on aurait tendance à dire, justement, et je vais expliquer pourquoi. La question est très très bonne. Dafka, à chaque fois qu'on veut rapporter une, justement l'exemple de ce qui n'est pas comme roi-peuple, on prend père-fils. Vous allez voir pourquoi, mais je sais, c'est on peut dire surprenant, puisque on n'aurait pas dit justement homme-femme, on aurait tous dit père-fils. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Parce que justement, on n'aurait pas dit homme-femme, parce que dans le monde occidental, surtout dans lequel on est tellement imprégné, et s'il y a bien une relation qui chas v'shalom, d'oser dire que c'est une relation dirigeant et dirigée, dans les deux sens, comme on va voir, c'est bien la relation homme-femme, puisque c'est l'amour, c'est tout, etc., etc. Par contre, la relation fils-père, si déjà, bien qu'aujourd'hui elle n'existe plus cette relation-là, mais si déjà on aurait plus de facilité à comprendre c'est une relation dirigeant-dirigée. Or c'est faux. Nos maîtres disent non. Pourquoi? Parce que Chazal ne parle pas de la relation telle qu'elle est devenue aujourd'hui, mais telle qu'elle devrait être en vérité. Et on sait que la relation homme-femme, vue d'après la Torah, c'est essentiellement et surtout une relation de respect. Comme il est dit, que l'homme doit aimer sa femme comme lui-même et la respecter plus que lui-même. Ohev ota kegufo, vemechabda yoter megufo. Il l'aime comme lui-même, mais il la respecte plus que lui-même. C'est-à-dire, quel est ici concrètement ce que cela signifie? Ça veut dire que aimer comme toi-même, ça veut dire qu'on ne te demande pas d'une certaine manière de l'aimer plus que ce que tu t'aimes toi-même. Mais par contre, au niveau du respect, on te demande de lui donner plus que ce que tu attends pour toi-même. Et c'est le plus difficile. Pourquoi on élève le respect plus que l'amour? Parce que justement, l'expérience a prouvé que la grande majorité des couples qui se déchirent parce qu'ils s'aiment trop. C'est-à-dire qu'ils s'aiment mal. C'est-à-dire l'amour mal géré crée trop de proximité. Et quand il y a trop de proximité, automatiquement, il y a une sorte, on pourrait dire, d'habitude, d'usure et de non-respect de l'autre. Puisque sous couvert d'amour, on pense qu'on peut tout faire passer, on peut tout pardonner, tout oublier. Et avec le temps, avec les années, on se rend compte que finalement, on a créé des bombes à retardement et qu'on croyait que l'amour avait effacé. Puis un jour, ça nous expose au visage. Et donc c'est pour ça que le respect, la distance est extrêmement important dans un couple. Ça veut dire savoir que c'est pas parce qu'on s'aime que tout est permis et qu'un mot, quand il fait mal, il continue à faire mal pendant des années. Et c'est pas parce qu'on s'aime que le mot a été oublié, que l'insulte a été oubliée ou que la trahison a été oubliée. Et tout ça vient justement du fait qu'on n'a pas suffisamment de respect. Par contre, dans la relation entre les parents et les enfants, nos maîtres disent le contraire. Ils disent qu'il y a tellement, l'amour est tellement fort entre la chair et la chair, que finalement, toutes les blessures des enfants vis-à-vis des parents arrivent toujours à être surmontées. Et c'est ça le grand chidouche. Et c'est pas un grand chidouche, quand on réfléchit, on voit que c'est vrai. Nous, on s'imagine qu'entre un homme et une femme qui s'aiment, allez, c'est sûr, allez, je t'aime, tu m'aimes, machin. Nos maîtres disent, attention, vous marchez sur un champ de mine. Tu lui as dit une parole de travers, elle t'a dit une parole de travers, tout l'amour du monde n'effacera pas la parole de travers. Il va falloir énormément de travail pour réparer la chose. Et ça ne sera pas par plus d'amour que ça va se réparer, mais par plus de respect. Ça veut dire que justement tu vas augmenter dans ton respect. C'est comme ça que tu vas pouvoir réparer. Alors qu'entre une relation parent-enfant, même si un enfant a dit à son père va te faire foutre ou va te faire plus encore, il y a quelque chose de surnaturel dans la relation entre la chair et la chair qui fait que sauf l'amour, oui, est capable d'effacer. Et donc, comment? Parce que c'est un amour surnaturel. L'amour dans un couple n'est pas un amour surnaturel. Voilà. Mais au niveau des parents-enfants, il y a quelque chose de surnaturel. Il est inconditionnel.
Les traces.
Non, mais pas comme dans un couple. Pas comme dans un couple. La preuve, c'est que des couples divorcent. Il n'y a pas de parents-enfants qui divorcent. Il n'y a pas de notion de divorce entre parents-enfants. Ça n'existe pas. Je parle, non, évidemment, sur 7 milliards d'habitants, vous allez me trouver 150 millions d'exceptions. Mais vadaï, ça reste des exceptions. Par contre, le divorce est une norme. Et malheureusement, presque une majorité aujourd'hui. Donc, la norme relation parent-enfant, c'est qu'il n'y a pas de brisure, il n'y a pas de cassure. Il n'y a pas de va-t'en, on ne se parle plus. Comme dans un divorce. Dans un divorce, c'est va-t'en, on ne se parle plus. Même la halakha dit qu'ils n'ont même plus le droit de vivre. Si on tenait compte de la halakha, dans le cas du divorce, on n'a même plus le droit de vivre dans le même quartier. Ça veut dire qu'on ne peut même plus se rencontrer. Et si on, normalement, dans la halakha, quand on a divorcé, même si on doit se téléphoner, c'est par personne intermédiaire. On ne le fait pas vraiment. Mais la halakha est très, très, très sévère en matière de divorce. C'est fini. Il n'y a plus de relation possible. Ça n'existe pas entre parents-enfants, une chose pareille. Dans la norme d'une famille normale. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas casser une relation parent-enfant. Tu peux, oui, casser une relation homme-femme. Ce qui veut donc bien dire qu'il y a quelque chose dans un couple qui n'existe pas dans les parents. Et c'est pour ça que quand Chazal compare la relation dirigeant-peuple, il la compare à une relation homme-femme et non à une relation parent-enfant. Bien qu'au niveau de parent-enfant, il y ait une notion de respect, mais ce n'est pas la même chose. Parce que c'est un respect qui ne met pas en péril ta relation. Même si tu ne respectes pas ton père, il ne te foutra pas à la porte, définitivement. Par contre, si ma femme ne me respecte pas ou si mon mari ne me respecte pas, à plus forte raison, s'il y a une trahison. Donne un exemple simple, une trahison. Un enfant qui était éduqué dans une famille X qui a tel ou tel idéal et que l'enfant trahit l'idéal de ses parents et part ailleurs. Les parents ne vont pas le jeter pour autant. Une femme qui part avec quelqu'un d'autre ou un homme qui part avec quelqu'un d'autre, les parents vont, le mari va la jeter. C'est normal.
Combien de
pourquoi
femmes, femmes battues qui ne voulaient même pas dénoncer leur mari.
Mais c'est pas pour
ça. Ça veut dire que bon, il y a un lien qui se crée aussi.
Mais non, c'est par peur, c'est par faiblesse. On le sait. Toutes les femmes battues qui restent à la maison, c'est parce qu'elles n'ont pas où aller, elles n'ont pas le courage de. Bon, on peut comprendre une femme une fois est battue, un homme une fois est trahi, mais c'est d'air. Mais quand ça devient une constante, une femme qui reste avec un homme qui la bat, c'est uniquement parce qu'elle est faible de caractère. Et c'est pour ça qu'elle a accepté la première claque. Parce que si la première claque, elle avait appelé la police, elle n'en aurait pas eu une deuxième. Et donc, c'est évident que c'est par faiblesse et non par amour. Ça peut être la première fois par amour qu'elle reste, deuxième fois par amour. Mais si elle reste, alors c'est une femme battue, c'est un chiffon, c'est pas une femme. Et donc, c'est par contre, non. Un enfant fait les 400 coups, il revient tous les soirs à 2h du matin, il amène une copine à la maison et les parents ne le mettent pas à la porte. Pourquoi ? Parce que c'est irrationnel la relation entre les parents et les enfants. C'est irrationnel. Et donc, je reviens maintenant à ce que j'ai expliqué. La malchut se crée sur le principe de la gvoura. La gvoura, c'est la rigueur. En bon français, c'est le respect. C'est le kavod. Et dès qu'il y a un manque à ce niveau-là, automatiquement, ça remet toute la relation dirigeant-dirigé en cause. Dans les deux sens, si le dirigeant ne respecte pas son peuple, ou si le peuple ne respecte pas le dirigeant, toutes les tovot faites avant ne pourront pas contrebalancer le manque de respect maintenant. Oui.
Au niveau du peuple, quand il s'est formé, on est devenu des bnés, des fils.
Oui.
La relation fils-père.
Non, on est devenu bné Israël à l'époque de Yaakov, et Yaakov n'était pas notre. On est bné Israël, les enfants de Yaakov. Les enfants de Yaakov.
Il y a des moments où on demande.
Comment c'est bné Israël, c'est justement, c'est la relation entre fils et père, bné Israël. On est devenu Israël avec la sortie d'Égypte, on n'est pas devenu bné Israël à ce moment-là, on était bné Israël déjà à l'époque de Yaakov.
Des moments où on demande cette relation
père-fils. Avec Hachem. Pourquoi ? Parce que quand on sent que selon les règles de la malchut, on devrait disparaître ou il devrait nous donner un guet, un contrat de divorce, alors on dit, oui, mais la chance qu'on a avec toi, Hachem, c'est que tu n'es pas seulement notre roi, tu es aussi notre père. Justement, c'est la confirmation absolue de ce qu'on dit. Justement, quand on voit que la relation ne pourrait plus tenir s'il n'était que roi, alors on met en évidence le fait qu'on est enfant. Et alors, mais sauf, c'est vis-à-vis du même être que je manquais de respect. Ce qui veut donc dire que le roi, lui, ne laisse pas passer la chose, mais en tant que père, il laissera, oui, passer la chose.
Mais,
voilà. Et donc, on continue. Kibinyana malchut ume agvurot. La malchut se construit avec les gvurot. Les fichés en melech beloam. Il n'y a pas de père. Il n'y a pas de roi sans peuple. Daïnou nifradim, c'est-à-dire donc la relation roi-peuple est une relation de distance à garder. Et d'ailleurs, c'est aussi bien sûr ce que Hachem demande. Hachem ne veut pas être que père. Comprenez ? Dans toutes les brachot qu'on fait, on n'appelle jamais Dieu père. Baruchata Hachem melech haolam. Tu es le roi. De même, on ne dit pas Bayom Ahui Hashem Abba al Kol Haaretz. Bayom Ahui Hashem Melech al Kol Haaretz. On ne dit pas qu'il sera père, on dit qu'il sera roi. Et donc c'est clair que le Ham Israël prétend dévoiler la royauté et non seulement la paternité. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas construire le monde avec un Dieu père. Parce qu'un Dieu père, c'est un Dieu éponge. Et donc automatiquement, l'homme ne peut pas s'améliorer. Le monde restera dans sa faute. C'est pour ça que la religion du pardon et la religion de la grâce refusent de voir Dieu comme un roi. Elles ne le voient que comme un père. Ça va forcément de père. C'est le cas de le dire. Par contre, nous sommes la religion du Dieu roi parce que nous ne voulons pas d'excuses, nous ne voulons pas de grâce. Nous voulons un monde qui s'améliore et qui se construit. Donc pour pousser l'homme à s'améliorer, il faut forcément voir Dieu comme un roi et non comme un père. Vezehu al-yede midat gvurato, et ça entraîne donc forcément midat gvurato, ça entraîne donc forcément des rigueurs. Ve'amechaven mize kedei shachar yikablu aleihem malchuto, et voilà. Et donc tout le but est de pousser le monde à recevoir sur lui la royauté divine, beratzon, en la désirant véritablement. C'est-à-dire que Hachem, je te veux en tant que roi, plus encore que je te veux en tant que père. Liot beteli mamash le orensof, bitu la yesh, que toute la yeshut, que tout le ego, tout le moi de l'homme s'annule devant Hachem, roi. Voilà. Et on va lire il fait un petit résumé, on va le lire nous-mêmes. Akitsu miperek kav gimel. Il fait un kitsu parce que je vous signale qu'on vient de terminer un chapitre très très long. Il fait un résumé depuis le chapitre 23 jusqu'au nôtre qui est le chapitre 31. Donc il va faire un résumé de 8 chapitres. En quelques lignes. Nidbaer inyan Yehuda Tita'a. Il a été expliqué le sujet du Yichud Tita'a, de l'unité d'en bas, chez Ouinyan Bitulayesh, qui est l'annulation de l'ego. Non l'annulation de l'être, mais l'annulation de l'ego. Je vous ai expliqué très bien que c'est la différence dans le langage de la Kabbalah entre Bitulamitsiut et Bitulayesh. Bitulamitsiut, c'est l'annulation totale de soi. Le Bitulayesh, l'annulation du moi. Vous avez compris la différence en français entre l'annulation du soi et l'annulation du moi. L'annulation de soi, c'est que je n'existe plus. L'annulation du moi, c'est l'annulation plutôt de mon orgueil, de mon égocentrisme, de mon égoïsme. C'est ça que j'annule. Mais pas mon être, j'annule pas mon être. Donc le yichud d'en bas, qui n'est pas encore, on pourrait dire, le yichud suprême, c'est la capacité d'annuler son ego. Mais je n'ai pas encore annulé totalement mon être. Tandis que le Yichud d'Elion, c'est un niveau qui est beaucoup, beaucoup plus haut, où l'homme parvient à une annulation totale de lui-même. Ce qu'on pourrait appeler un moment de Messirut Nefesh. Quand un homme, par exemple, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple-là, il est idiot, mais quand un homme, par exemple, ne lit pas un journal le Shabbat, d'accord, c'est l'annulation du Yesh. C'est-à-dire l'annulation de l'ego. Pourquoi ? Du moi. Ça veut dire qu'il aurait pu se payer un bon petit moment, comme ça, à savourer les actualités. Il n'a pas eu le temps toute la semaine. Il dit non, mais c'est Shabbat aujourd'hui, c'est pas le jour. Donc il annule son moi. Mais quand un homme est prêt à se sacrifier pour ne pas se prosterner devant une idole, à ce moment-là, c'est l'annulation de soi. Ça, c'est le Yichud HaElyon. On est rarement confronté à une situation de... On est rarement confronté à une situation de Yichud HaElyon. On peut avoir sans aller jusqu'à se faire tuer une situation de Yichud HaElyon, mais je voulais pas la donner celle-là parce que ça ne concerne que les grands tzadikim, les gens qui du matin au soir, du soir au matin, toute leur vie ne vivent que pour le Ham Israël, qui n'ont plus aucune vie personnelle, ils n'ont plus rien, tout ce qu'ils ont c'est le Ham Israël, comme les grands tzadikim, le Rabbi et d'autres. Donc eux ils sont, oui, mais c'est pour ça que j'ai dit, chez eux c'est tout le temps. Le Chayal ou nous, c'est ponctuel dans la vie. Donc c'est pour ça que j'ai dit que chez nous, généralement chez des gens comme nous, ça n'existe que dans des moments de danger véritable, à plus forte façon qu'on est prêt à donner sa vie, chez un soldat ou chez quelqu'un à qui on demanderait de se prosterner devant une idole. Donc c'est des moments très ponctuels. Les tzadikim vivent comme ça toute leur vie. Toute leur vie, ils ne savent pas ce que ça veut dire se consacrer un moment à eux. Ils sont col coulo pour le Ham Israël. Comment ?
Ça va jusqu'à
l'annulation de soi, mais c'est pas l'annulation totale de soi qui est, mais c'est déjà plus que l'annulation de, parce que dans l'annulation du Yesh, on t'interdit pas du tout de t'occuper de toi. On t'interdit dans l'annulation du Yesh de ne pas t'occuper de toi, si tu veux, quand c'est des choses qui vont faire grandir ton orgueil, ton égoïsme, etc. C'est-à-dire tes mauvaises midotes, ce qui est gasse, ce qui est grossier dans le moi. C'est ça l'annulation du yesh. Tu comprends ? Ça s'appelle la yeshut, même en hébreu. La yeshut, c'est le... Comment on dit ? Ouais, yesh ! Tu comprends ? C'est ce qu'il y a de gasse dans l'homme. Donc c'est ça, c'est ce qu'on demande à lui. Mais on ne te demande pas de travailler pour toi, de te reposer pour toi, de te promener pour toi, de te consacrer du temps. Le tzaddik ne sait pas ce que ça veut dire se consacrer du temps. On arrive très bientôt là, d'ailleurs je vous en reparlerai, au Yud Shvat. Dans 11 jours, dans 10 jours, le jour où le rabbi a été intronisé, en 1951, il faut comprendre que le rabbi pendant plus de 50 ans n'a jamais pris un jour de vacances. Mais c'est pshuto ke mashmao, ça veut dire, si je ne veux pas citer d'autres exemples contraires dans d'autres domaines, chez d'autres personnes, mais le rabbi ne sait pas ce que ça veut dire aller prendre une semaine en Suisse pour se reposer, je veux dire, il ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est un homme qui vit pendant plus de 50 ans de sa maison au 770, du 770 à la tombe de son beau-père, de la tombe de son beau-père au 770, de sa maison à sa maison. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne prend pas pendant plus de 50 ans un jour de vacances. C'est-à-dire, il n'est pas arrivé un jour où on cherche le rabbi, il n'est pas là.
C'était pas sa maison?
Non, il vivait dans une maison juste de la rue derrière. Mais en fait, il était jamais de toute façon. Mais dans une maison derrière. Mais il avait quand même une maison derrière. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire, j'ai oublié mon portable. C'est Rabbi qui m'appelle pour me dire merci de m'avoir fait du cabotage. C'est le... Comment ? Je ne peux pas répondre. Je suis en train de donner un cours et j'ai oublié l'état de mon portable. Pas toujours qui engueule les gens qui annulent leur avant. Voilà. Et donc, c'est quelque chose de phénoménal. Tu vois ça une fois tous les 1000 ans, un phénomène pareil. Et vous savez, bon, il y a eu une des choses les plus extraordinaires, enfin moi je dis en ce qui me concerne les plus extraordinaires qui est arrivée dans l'histoire de cette Nessiout là, c'est que un jour il a été invité par Reagan à Washington pour qu'on lui remette le prix de l'éducation américaine, quoi. C'était le jour de son anniversaire, le Yud Aleph, le 11 Nissan. Et donc il était invité là-bas, vous imaginez, avec toutes les caméras du monde, etc., pour la remise du prix. Et qu'est-ce qu'il a répondu à Reagan ? Il n'y a pas été. Il a envoyé, vous imaginez le Nisayon, que ça veut dire, d'accord ? Il n'y a pas été. Et la réponse officielle qu'il a donnée, ça veut dire autant se faire sauter, comment ça peut réussir une réponse pareille ? Et elle a marché, le prix a été donné, il y a la photo, machin, etc. Et depuis, ça fait donc à peu près 40 ans aujourd'hui, ça fait 40 ans à l'heure d'aujourd'hui, que tous les 11 Nissan, enfin selon la date non-juive, tous les 11 Nissan, c'est le jour de l'éducation en Amérique. Et toute la journée, dans toutes les écoles des États-Unis, c'est consacré à l'éducation civique, d'accord, en l'honneur du Rabbi de Lubavitch. Et donc Reagan a accepté malgré tout de donner le prix, c'est ça. Et quelle est la réponse qu'il a donnée à Reagan? Et quand Reagan a dû faire son enquête et s'est rendu compte que c'est vrai, il a dit, je ne sors pas, depuis que j'ai pris la direction des Hasidim, je ne sors jamais de mon lieu de travail, sauf pour aller dans ma maison ou sur la tombe de mon beau-père. Et si j'accepte une fois, je ne pourrai plus repousser le tsunami des demandes que j'ai dans le monde entier de venir là et de venir là et de venir là. Et que, monsieur le président m'excuse, je ne peux pas accepter parce que sinon je ne pourrai plus refuser les autres demandes. Parce que vous imaginez, il ne s'est même pas déplacé dans New York pour aller voir une école Lubavitch. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer ce que ça veut dire. Et donc finalement il n'y a pas été. Mais imaginez qu'en donnant une réponse comme ça, la première chose que sans doute le président a dû faire, c'est voir s'il se fiche de lui ou pas, il a dû vérifier si c'est vrai ou pas. Donc c'est un homme qui ne prend pas de vacances pendant 50 ans, mais pas seulement de vacances, ça veut dire que c'est les mêmes mouvements pendant 50 ans, c'est-à-dire qu'il n'existe plus. Am Israël Nekuda. Ça c'est beaucoup plus qu'un bitoul ayesh, ça veut dire que c'est un bitoul total, c'est-à-dire qu'il n'y a, il n'y a plus de, on pourrait dire, de plage privée pour lui-même.
J'ai entendu ce matin à la radio que Obama a demandé, lorsqu'il a fait dans une église,
oui, évidemment, mon cher Abinou,
son serment ou je ne sais pas quoi, et il y avait les représentants de tout le peuple, dont des rabbins qui qui était pas, comment dire, les réformistes.
Oui. Non, non, non.
Il a obligé, il a obligé aussi un rabbin orthodoxe à venir.
Il n'a pas obligé, il était d'accord de venir, l'Ouchti.
Mais il a été obligé
à rentrer dans l'église.
Ouais.
Mais ben, Réga, c'est une église peut-être évangéliste. C'est pas une église catholique. Si c'est une église évangéliste, il n'y a pas un problème. S'il y a pas de, on rentre bien dans une mosquée. Si c'est une église protestante où il n'y a absolument pas de, de statut, il n'y a aucun problème. On prie bien dans une mosquée, non?
S'il est obligé, s'il est obligé, c'est qu'il y a...
Obligé, c'est autre chose. À partir du moment... Attends, d'abord, c'est
pas... Il y a une notion interdite,
d'abord, non, tu obliges sur le plan du devoir civique. J'ai pas été, je sais pas, j'entends ça la première fois, mais je dis simplement que si c'est un lieu de culte dans lequel il n'y a aucune statue, il n'y a pas de problème à y aller à titre de devoir civique. Et ce rabbin-là n'est pas le rabbi. Le rabbi, il a la force de dire au président des États-Unis, je ne viendrai pas. Mais c'est pour ça qu'il est rabbi. Et en plus, ça marche et qu'il reçoit le prix. Mais c'est ce qui prouve qu'il est un rabbi, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de ce monde. Mais un rabbin normal, c'est à partir du moment où la halakha ne l'interdit pas de le faire et que le président te demande de venir, ben voilà qu'il a l'obligation de venir. Dina de malchuta dina. Le chidouche, c'est que le rabbi Bevadaï aurait pu y aller, était presque obligé d'y aller, mais qu'il a eu le choix de transformer le monde. Mais c'est ça la force d'un rabbi. Mais un rabbin normal, s'il n'y a pas un problème de statut, il a l'obligation d'y aller. S'il y a une statue, il a l'obligation de mourir. Plutôt que de rentrer. Mais je ne pense pas qu'il y avait statut. Si, c'est certain. C'est ça. Mais parce que là-bas, c'est catholique. Mais aux États-Unis, ce n'est pas catholique. Donc, c'est sûr que si l'Église n'a pas de, si l'Église n'a pas de statut, il n'y a pas de problème pour un rabbin de rentrer dans un temple protestant. Si c'est vraiment propre de toute statut, il n'y a aucun problème. Les protestants ne sont pas des idolâtres. En plus, les protestants anglo-saxons et américains ne sont pas du tout idolâtres. Ce sont des monothéistes purs. En plus, s'ils sont évangélistes, n'en parlons pas. Et donc, on continue. Et donc, les fiches En Melech Beloham, Dainu Nifradim, s'en avait, on était dans le. Alors, Inyan Yehudat Ita, c'est quoi le Yehud d'en bas? Chez où Inyan Bitulayesh, est-ce qu'on a expliqué? C'est le Bitulayesh. Chez Zeou Shoresh Aefresh, c'est ça la différence fondamentale. Ben Bia, entre les trois mondes d'en bas, dont le nôtre, chez En Bechinat Nifradim, qui comme nos mondes sont séparés, ça veut dire que ce sont des mondes dans lesquels on ne peut en aucun cas voir la réalité vraie, on ne voit que les choses déformées comme ce qu'on explique, donc automatiquement on ne peut pas nous demander à nous d'être en permanence en état d'annulation totale. Les grands sadikim comme Moshe Rabbeinu, Bevadaï, qui sont constamment en état d'annulation totale, parce qu'eux, ils vivent même dans ce monde au niveau du Olam Hatzilut. C'est-à-dire que leur âme est une âme de Hatzilut. Donc ils ne voient pas le monde comme nous, on le voit. Et ça, ici, il faut savoir d'une manière très concrète. Celui qui s'imagine que Moshe Rabbeinu voit le monde comme nous, on le voit, alors il n'a rien compris ce que c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ne voit pas un mur. Il voit, il voit le sens du mur. Il voit la fonction du mur dans le projet divin. C'est ce qu'il voit, Moshe Rabbeinu. Et donc automatiquement, comme il voit la réalité selon des perceptions de Olam Hatzilut, automatiquement, il est constamment en connexion avec Hachem. Et donc, chez En Bechinat Nifradim Biediatam, le Hatzilut, à la différence le monde de Hatzilut, chez En Biediatam, Gamken Betelim Keziv. Par contre, quand tu as une perception du Olam Hatzilut, tout est annulé, Kézib. Derrière Agave, comme j'explique tout le temps, chacun d'entre nous, sinon ce livre-là ne nous intéresserait pas, chacun d'entre nous a, à titre ponctuel, des perceptions aussi de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire une capacité d'annuler des choses qui sont extrêmement importantes pour les autres, et que là, tout d'un coup, tu as un flash où ces choses-là n'ont plus d'importance pour toi. D'accord? Chacun d'entre nous, plus ou moins, selon son histoire, lorsqu'il a décidé de quitter la France pour venir en Israël, c'est clair que plus ou moins chacun d'entre nous a dû ressentir qu'il y a quelque chose ici qui est beaucoup plus fort que toutes les illusions de Chutz La'aretz, même si on a une situation, on a ci, on a ça, etc. Tout ce yesh-là a disparu face au flash qu'on a eu être ici. Ça, c'est une perception de Hatzilut. Comprenez? C'est-à-dire que tout d'un coup, toute la réalité avec tout son poids disparaît devant une lumière qui s'ouvre dans l'âme du juif. Et ainsi de suite quand on fait teshuvah. Quelqu'un fait teshuvah, il était habitué le samedi, le tennis, le truc, le machin, c'était son jour de kef, son jour de golf et tout ce qu'on veut. Et du jour au lendemain, il laisse tomber tout ça. C'est aussi une perception du Olam Hatzilut que tout d'un coup, Et toute une réalité disparaît devant une perception spirituelle extrêmement élevée. Donc, Bevadaï qu'on est concerné, nous aussi, par ce genre de choses. She'en bi'idiatan gamken betelim kezi, venitba'er she'be'atzilut yesh ishtalshelut ilave'alul. Dans le monde Atzilut, on a une véritable perception des causes à effet, c'est-à-dire que chaque effet a sa cause. Ve'inu be'itavut chesed mi'chokhma ve'chol alul batel be'ilato kezi. Et on sait très bien que un effet est toujours annulé à sa cause. C'est pour ça que celui qui a une âme de Atzilut ou une perception d'Atzilut est constamment en état d'annulation devant Hachem. D'accord ? Comment un homme de Hatzilut ne peut pas prendre des vacances? Pourquoi? Parce qu'il se dit, mais attends, mais cette vie que Hachem me donne pendant que je vais faire de la pétanque, mais de quel droit je lui vole cette vie puisque je ne fais pas quelque chose qui correspond à son projet? Donc c'est pour ça qu'un homme de Hatzilut n'a même pas... Il ne se pose même pas la question. Comment je peux faire une pétanque? Comment je peux faire une heure? Je vais vivre avec une énergie que je vois qu'elle me vient de lui. Il me la donne, je pourrais l'investir dans son projet, je l'investis dans ma pétanque, c'est absolument impossible. Mais un homme comme nous, on n'a pas de difficulté à le faire. Pourquoi? Parce que je dis non, moi je fais la pétanque, pourquoi? Parce que je vais changer les idées, je vais reprendre des forces, et dans une heure, je serai encore mieux pour m'atteler à mon travail. Pour nous, c'est permis, ça peut même être une mitzvah pour nous, si on le fait vraiment avec une kavana de se détendre, pour mieux revenir après à ce qu'on fait. Mais pourquoi on peut le faire? Parce que nous, on a des perceptions de Bria et Tsirasia. Et donc, on n'est pas gêné par le fait que pendant une heure, on va faire quelque chose qui, à ce moment-là, n'a rien à voir avec le projet divin. Mais celui qui est au niveau de Hatzilut, il ne peut pas, une minute, ne pas être en connexion avec le divin. C'est absolument impossible pour lui. Et donc, on continue.
Et la femme du rabbi, qu'est-ce qu'elle disait quand on n'est jamais de vacances?
Le rabbi a dit...
C'est la question qu'on attendait depuis tant d'années.
Le rabbi a dit, figurez-vous...
Sans oser la poser.
Le rabbi a dit qu'il est sûr qu'il a eu au moins un chassid dans sa vie. D'accord? C'est sa femme. Et le rabbi disait, c'est d'autant plus un chidouche que les rébéim avaient l'habitude de dire qu'il y a deux personnes qu'un rabbi ne peut pas avoir comme chassid. Ses secrétaires et sa famille. Genre ce qu'on dit en français, nul n'est prophète chez lui-même. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui te voient trop dans ton intimité, et donc tu ne peux pas jouer au rabbi avec eux. Le secrétaire, c'est-à-dire on pourrait dire celui qui est vraiment constamment avec toi, il va te voir avoir mal au ventre, il va te voir tousser, il va te voir dans des moments pas forcément glorieux pour toi, et donc automatiquement il ne peut pas vraiment te voir comme un rabbi, ta femme n'en parlons pas. Et le rabbi a dit, je ne suis pas sûr d'avoir eu des chassidim dans ma vie, sauf un dont je témoigne que c'était mon chassid, c'est mon épouse. Pour vous compreniez ce que ça veut dire l'épouse du rabbi, c'est pour ça que la question qui se voulait dangereuse et ironique, comment je vous la renvoie à la figure, quand le rabbi avait près 70 ans, il a fait en plein Soukhot, il a fait une crise cardiaque. C'était en plein Simchat Torah, il a fait une crise cardiaque. Et déjà pour la petite histoire, si on parle, ça croit qu'on s'approche de Chodesh Shvat maintenant où c'est le mois du rabbi, et donc Min HaShamayim, et le rabbi avait une chumra sur lui, c'est que même un verre d'eau, il ne boit pas en dehors de la soukha. Et vous avez voulu l'histoire du rabbi, je vais vous en raconter au moins deux aujourd'hui, vous allez voir. Il faut comprendre que chez le rabbi, une khumra, c'est pas stam pour faire le malin. Ça veut dire c'est jusqu'à en mourir. C'est un rabbi, c'est pas vous et moi. Le rabbi fait une crise cardiaque, il a 70 ans, en pleine akafot de Simchat Torah. À ce moment-là, tout le monde le voit devenir blême, etc. Ses secrétaires se précipite sur lui, tout le monde comprend qu'il est en train de faire une crise cardiaque. Première chose qu'on fait, on lui apporte un verre d'eau. Le rabbi refuse. Il prend le verre d'eau. Comment ? C'était pas Simchat Torah, c'était Shmini Atzeret. Ah non, mais c'est encore un peu en chidouche. C'était Shmini Atzeret. Donc en vérité, Bichlal, c'est une chumra, même en choul, la soukha, puisqu'on ne fait pas de bracha. Il n'y a aucune obligation, même en choul. Mais comme c'est encore un jour de safek en choul, le rabbi refuse de prendre le verre, il le repousse.
Mais la vie d'accord. Qu'en jeu, là.
Arrêtez, j'en supplie. Vous parlez de vous et de moi, on parle d'un rabbi. Le rabbi refuse le verre. Et donc on l'amène, on le tire jusqu'à la soukha, pour qu'il puisse prendre son verre. Mais il faut comprendre, c'est 10 000 personnes dans le 770, il faut que tout le monde se pousse, les minutes passent, etc. On l'amène, jusqu'à la soukha, et seulement dans la soukha, il prend son verre. À ce moment-là, tout de suite, le secrétaire lui dit, on a commandé l'ambulance, on vous amène à l'hôpital. Le rabbi peut encore un petit peu parler. Il dit, non, je reste au 770. Il est en pleine crise cardiaque, l'accident devient de plus en plus fort, les yeux commencent déjà à tourner. Il a juste le temps de dire non, il ne veut, veut pas aller à l'hôpital. Psader. D'accord, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va apporter les grands talmidim, on va apporter le maradéatra, le rav du quartier, qui lui disent la halakha, voilà la question, la halakha, piko en effet, comme si le rabbi ne connaît pas la halakha. La halakha, piko en effet, je viens le maradéatra, il lui dit, mais rabbi, piko en effet, il faut aller à l'hôpital. Il dit, non, je reste au 770. D'accord? Pourquoi? Parce que le rabbi sait, le seul souci du rabbi, c'est que s'il part à l'hôpital en pleine danse de Simchat Torah, d'accord, il n'y a plus Simchat Torah, c'est fini. Tout le monde s'arrête de danser, tout le monde va à pied à l'hôpital pour savoir ce qui se passe avec le rabbi. Rabbi, non, on n'arrête pas les danses. Vous dites au chassim de continuer à danser. Seder, on l'amène dans son bureau. À ce moment-là, le rav du quartier a une idée. La seule qui peut le faire bouger, d'accord, c'est sa femme. D'accord, on va chercher la femme. Et on lui explique le rabbi, etc. À ce moment-là, la femme arrive au bureau, la rabbanite, elle demande à son rabbi, à son mari, ce qui se passe. Et le rabbi dit, dis-leur que je leur ai déjà expliqué que je reste là. L'épouse se retourne, d'accord, avec toute la colère d'un chassid. Et elle dit, c'est l'épouse, mais vous n'avez pas honte? Le rabbi vous a déjà dit qu'il ne bougeait pas et vous osez me déranger pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà comment qu'elle réagit. Alors que son mari est en train de, entre parenthèses, de mourir. Le rabbi a dit, j'ai eu qu'un chassid dans ma vie. C'était ma femme.
C'est bon.
Sachez, Nekouda, que si le rabbi est devenu rabbi, c'est par le sroud de sa femme. D'accord? Parce que le rabbi ne voulait pas être rabbi. Il ne voulait pas. Et ce rabbi... Oui, mais non, elles n'ont pas un rabbi. Elles n'ont pas...
Oh, pas très bon.
Le rabbi ne voulait pas être rabbi. Et celle qui l'a convaincu d'être rabbi, c'est sa femme. Parce qu'elle était elle-même la fille d'un rabbi. Et le... on ne peut pas imaginer ce que c'était. Parce que c'est vrai, c'est vrai les mains. C'est que s'il y a bien une femme qui incarne, on pourrait dire, le rôle à la fois ingrat, mais surnaturel d'une épouse, c'est bien la femme du rabbi. Ça veut dire qu'elle a passé sa vie dans l'ombre, mais en vérité, c'est une force inimaginable. Et le rabbi lui a répondu, lui a rendu la monnaie de sa pièce. D'accord? Elle est décédée avant le rabbi, en 88, Tismar. Et le rabbi, à ce moment-là, a fait un Dvar Malchut. Il a fait, enfin, pas un espèce, c'est devenu un des grands classiques de la Chassidoute, où il explique... Qu'est-ce qui était sa femme? D'accord. Oui, il allait au cimetière, bien sûr. Oui, mais au cimetière, il s'est passé toute sa vie au cimetière. Et je ne sais pas s'il allait sur la tombe de sa femme, ça je ne sais pas. Mais en tous les cas, sauf à pas pour les Shiva ou l'année, bien sûr. Mais je ne pense pas que dans l'année, il est sur la tombe de sa femme. Mais le rabbi a fait un esped où il révèle à ce moment-là, dans ce esped, que tous les niveaux de son âme qu'il a eu dans sa vie, c'est par le sroud de sa femme. Tout ce qu'il a eu, ce que Rabbi Akiva avait dit en son temps sur Rachel, son épouse, quand il a dit à ses élèves, Sheli veshelachem shelai, ce que je suis, ce que vous êtes, c'est elle. Et le rabbi a dit, lui encore, Rabbi Akiva, il a dit en deux, trois mots, mais le rabbi a consacré toute une étude où il explique quels sont les différents niveaux d'âme d'un nassi, d'un dirigeant de la génération. Il fait d'ailleurs allusion au Mashiach clairement là-dedans. Et il explique que tous les niveaux d'âme qu'il a dévoilés en lui, c'est par le mérite de sa femme. Ça veut dire que c'est une force cachée, comme la femme vertueuse, une force complètement dans l'ombre, qui tient en vérité son mari entre ses deux mains, et qui tient avec son mari toute la chassidoute et tout le Ham Israël. Et c'est pour ça qu'on dit que la femme, son rôle, sa finalité, ça sera d'être la couronne de son mari. Ça veut dire que finalement, la femme vertueuse, elle dépasse l'homme dans ce monde de mensonges. C'est maman ce qu'on est en train de dire, comment ça colle avec ce qu'on est en train de dire. On a l'impression que c'est l'homme qui est tout et qui fait tout. On ne sait pas que derrière chaque géant, il y a une géante qui est tellement plus grande que le géant que pour elle, en vérité, ce fameux géant n'est qu'un nain. Tous les hommes sur Terre qui sont devenus de vrais géants avaient derrière eux une femme qu'on ne voyait jamais et qui dépassait des milliards de fois son mari. Comment?
Comment était Chassid alors?
Comment?
Comment était Chassid de son mari?
Parce que ça n'a rien à voir. C'est pas grandeur dans le sens, c'est une grandeur qui va se développer dans le Olam Haba. Mais la relation entre Rabbi Chassid n'est pas forcément une relation qui est le plus intelligent, qui est le plus fort et qui est le plus etc. Rabbi, c'est un canal. Le Rabbi, c'est le canal par lequel la providence divine passe et s'exprime dans la génération. Bon, chez Chabad, c'est pas Chayar ce que je vais dire maintenant, mais il y a des chassidim que je ne veux pas citer, où c'est connu qu'il y a parmi les chassidim des gaonim qui en Torah sont plus grands que leur rabbi. D'accord ? Mais ça n'empêche pas qu'ils sont complètement annulés devant le rabbi. Pourquoi ? Parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est comme, par exemple, dans un autre domaine profane, n'importe quel dirigeant, comme Obama ou d'autres, a bevadaï autour de lui des conseillers qui le dépassent des milliards de fois en connaissance et en savoir. Mais ça n'empêche pas que ce n'est pas eux les dirigeants, parce que le dirigeant, c'est des qualités particulières que le gros intello n'a pas. Et donc c'est pareil, un rabbi peut très bien avoir des gens qui le dépassent dans X et Y domaines, mais sauf que c'est lui le rabbi, parce que lui, il a une âme structurée pour être un leader, pour être un rabbi, et quand c'est sur le plan spirituel, pour être le réceptacle que Dieu choisit pour s'exprimer dans la génération. Donc c'est pareil entre la rabbanite et le rabbi, même si la rabbanite a des forces inimaginables qui permettent au rabbi d'être ce qu'il est, ça n'empêche pas que, sauf que le sauf, déjà parce que c'est un homme et que ça ne peut pas passer par une femme, puisque la femme ne peut pas se mettre en évidence sur la scène. Donc, comme ça doit passer par lui. Donc, même s'il a derrière lui cette force qui le soutient, c'est comme le rabbi. Maintenant, de toute façon, Bichlal, au niveau du secret des âmes, ce que je dis est de toute façon une idiotie. Pourquoi ? Parce que c'est la même âme en vérité. Au niveau des âmes, l'homme et la femme sont la même âme. Donc elle est autant rabbi que lui et lui il est autant rabbanite qu'elle. C'est-à-dire c'est la même âme avec deux dimensions, une masculine et une féminine. Dans ce monde terrestre, à cause de raison de tzniyut, c'est la dimension masculine de l'âme qui se dévoile. Mais dans le Olam Haba où il n'y aura plus de Yetzerara et ces choses-là, la dimension féminine se dévoile dans toute sa puissance et on verra tous que la rabbanite est aussi le rabbi autant que son mari.
Est-ce qu'on connaît le Gilgul de la rabbanite?
Non. Moi, je ne le connais pas, en tous les cas.
Pourquoi il y a quand même un élément familial qui est important.
Comment ?
Au niveau familial, c'est pas automatiquement le fils, mais il y a quand même un lien familial entre le rabbi.
Entre eux ?
Rabbi. Il y a un lien familial. Donc, ce n'est pas...
Caniré, je dis encore une fois. Il faut comprendre que là, on parle de dimension que... Il faut quand même qu'on ait, c'est pas une réponse à votre question, je parle pour tout le monde, un minimum d'humilité pour se rendre compte qu'il y a sur Terre des créatures qui ont deux jambes et deux bras comme nous, qui nous ressemblent, et c'est ça ce qui est dangereux, parce qu'on aurait tendance à projeter notre propre connaissance des choses, mais qui en vérité appartiennent à des dimensions qui n'ont plus rien à voir avec nous. Il faut comprendre que, je fais un grand détour, l'une des histoires que je vous ai déjà racontée pour comprendre ce qu'est le rabbi ou ce qu'est la rabbanite. La rabbanite, en 1938, d'accord, alors que la guerre était déjà déclarée, en 1938 ou 39, je crois, d'accord, 1939, la guerre était déclarée, le rabbi et la rabbine sont à Paris, et je crois le frère ou la sœur, je ne sais plus, peu importe, mais quelqu'un de très 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 proche de la rabbanite se trouve dans un endroit où les Allemands sont déjà rentrés et fusillent les uns après les autres, encore avant les camps de concentration où tous les Juifs sont massacrés, là où ils se trouvent, etc., les fosses communes, c'est les deux premières années de la guerre. Et ça arrive aux oreilles de la rabbanite, et à ce moment-là, la rabbanite veut sauver sa famille qui est dans un village qui est encerclé, etc. Et elle ne trouve rien d'autre à faire, d'accord, que de partir à Berlin. C'est une histoire vraie, authentique. Elle part à Berlin, en 1939. On est déjà après la nuit de cristal, etc. D'accord. Elle rentre au QG de la Gestapo. D'accord. Elle fait là-bas un scandale jusqu'à ce qu'elle obtienne un permis pour sauver sa famille. Et le nazi, avec un sourire sadique, c'est une histoire folle, mais elle est authentique, elle est papillée à tout. D'accord. Je sais que c'est fou, mais il y a une histoire encore plus folle que je vous ai racontée. Et le nazi lui dit à ce moment-là, avec un sourire satanique, il lui dit, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. D'accord. Et il lui sort un document sur laquelle c'est la liste noire des nazis, puisque les nazis s'étaient mis en tête, comme on le sait, d'exterminer d'abord et partout où ils pouvaient tous les dirigeants spirituels d'Israël, et il lui montre que le nom Schneerson est en troisième position. Et il dit, vous inquiétez pas de toute façon, on vous aura tous. D'accord. Et on sait que le rabbi a été un des principaux que les nazis ont cherché à Paris. Et donc, il lui donne ce laissez-passer, Un truc, vous ne me demandez pas de... Je ne comprends pas, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Mais l'histoire est là, les documents, on les a, ils sont écrits, signés, etc. Et il a été sauvé et il est parti à Londres. Je crois que c'était un beau-frère, un frère, peu importe, j'en sais rien. Non, pas un frère, il n'avait pas de fils, le Rayatz. Ça peut être un beau-frère, je ne sais plus. En tout cas, il le sauve comme ça. Mais c'est pas fini. En 40, lorsque Paris est occupé, et qu'à ce moment-là, les Allemands sont en train de recenser tous les endroits où se trouvent des Juifs pour préparer la grande ralph du Veldiv, comme on sait, etc. Et pour ne pas perdre de temps, ils recensent où sont les Juifs. Ils arrivent au quartier latin où se trouvent généralement les étudiants juifs. Le rabbi, à ce moment-là, étudie à la Sorbonne. Et ils arrivent, vous connaissez cette histoire-là, j'ai raconté mille fois. Ils arrivent chez la concierge. Et lui, est-ce que le rabbin Schneerson habite toujours au troisième étage, etc. Et elle... dans un vent de Messirut Nefesh, peu importe, à ce moment-là, dit, mais non, mais pas du tout, ils sont déjà partis longtemps, et c'est un pasteur ou un curé, peu importe, qui habite, elle lui donne même le nom, ce que vous voulez. Non, eux ne peuvent pas imaginer que la concierge n'est pas antisémite, et qu'elle se met comme ça en danger, et ils rayent le nom du rabbi cet endroit-là. Quand le rabbi revient une heure après, elle, toute contente, va à sa rencontre, dit, monsieur le rabbin, je vous ai sauvé. Elle raconte l'histoire, et elle dit qu'elle a dit qu'il y avait un pasteur, ou un curé, peu importe, qui habitait à la place du rabbi. Le rabbi va dans le 16e, il va dans les Champs-Élysées, d'accord. Il rentre au bureau de la Gestapo, il va jusqu'à chez le greffier, et il demande, il n'a pas l'étoile jaune sur lui, il risque sa vie à chaque instant, et il demande là-bas qu'on mette son nom à la place de ce curé. Il explique, la concierge s'est trompée, je suis revenu, elle ne le savait pas, etc., pour ne pas l'inquiéter, elle. Et donc, jusqu'à ce qu'il voit que son nom est marqué sur le registre de la Gestapo, il ne bouge pas. Mais, alors ne parlez pas d'un verre de... On a affaire à des dimensions qu'on ne comprend pas. Ce sont des gens ce sont des Neshamot qui revêtent notre forme physique, mais qui n'appartiennent pas à nos dimensions, à nous. Il faut comprendre, après des années d'études de Chassidut et de Kabbalah, que si on croit que... Si on ne comprend pas qu'il y a des Neshamot qui proviennent de ce que lui appelle Olam Atzilut, des Neshamot qui n'ont rien à voir avec nous, qui ne fonctionnent pas comme nous, tous les critères qui nous concernent, nous, n'ont rien à voir. Maintenant, je reviens à votre question. Il est clair que la relation mari-épouse entre le rabbi et la rabbanite n'a sans doute rien à voir aux dimensions que nous, on connaît. Ça n'a rien à voir. Il y a une autre histoire très très connue qui a été racontée par le témoin de l'histoire. Dans la maison privée du rabbi, il y avait trois étages. Et donc, vers son vieil âge, si on peut dire, la rabbanite ne pouvait plus monter et descendre tous les étages. Donc, ils ont fait installer un petit ascenseur dans la maison. Et il y avait un homme de main, ça veut dire un homme qui s'occupe de l'entretien de la maison, etc., qui est en même temps un chassid, et qui avait toujours toujours en contact avec la rabbanite, si jamais elle a besoin, parce qu'elle n'a pas demandé à son mari, il n'a pas le temps. Et donc une fois c'est arrivé qu'elle est restée coincée dans l'ascenseur. Elle reste coincée dans l'ascenseur. D'accord, la rabbinite, elle a déjà 70, 72 ans, etc. Alors, elle appelle le fameux chassid en question, et tout de suite, il accourt. C'est en pleine nuit. Et donc, il veut rentrer, il a la clé, il a tout, mais ils avaient oublié, ou le rabbi ou la rabbinite, peu importe, ils avaient oublié de sortir la clé de la maison. Donc il ne peut pas rentrer. Alors il téléphone à la rabbinite, et qu'est-ce que je fais? Alors, il dit, écoutez, c'est pas grave, vous verrez, dans le hangar, là-bas, il y a une échelle, d'accord? Vous la mettrez à tel endroit, passez par notre chambre, et je suis sûr qu'à cette heure-là, la fenêtre est ouverte, vous pourrez rentrer. D'où la rabbinite, vous allez voir pourquoi. Le chassid dit, mais je peux pas. Mais le rabbi, je peux pas rentrer dans la chambre du rabbi à 2h du matin, il doit être en train de dormir, etc. Je peux pas rentrer, impossible. Alors il dit, rentrez, ne vous inquiétez pas, le rabbi ne dort pas. D'accord. Alors, il monte, il arrive au troisième étage, d'accord. Et puis à ce moment-là, il se retrouve nez à nez, il a failli tomber de l'échelle, nez à nez avec le rabbi. Le rabbi est dans un autre monde, il est à la fenêtre, il respire l'air pur certainement, d'accord. Les yeux, tout est blanc ici, d'accord. Il est comme ça, dans un autre monde. Alors, il ne sait pas s'il doit redescendre, pas redescendre, etc. Bon, il rentre, bien sûr, il sort la rabbanite, mais il est tout blême. Et il demande à la rabbanite, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et la rabbanite répond, d'accord, c'est comme ça que mon mari dort. Ça veut dire qu'il n'a jamais dormi. Et la rabbanite révèle à ce moment-là que c'est comme ça que le rabbi dort. Dormir pour le rabbi, ça veut dire qu'il se met en contemplation, ce qu'on appelle itpashtut haneshama, pendant les 2 ou 3 heures, pendant 50 ans, qu'on connaît nous, on ne sait pas ce qu'il y avait avant, où il est chez lui à la maison. Nous, on croit qu'il est dans son lit et qu'il est allongé sous sa couverture, d'accord ? Il est dans un état de ce qu'on appelle aliyat haneshama. C'est comme ça, puisque c'est ça. Vous savez que tous, nous tous, quand on dort, la neshama, elle monte. Seulement nous, elle monte dans les olamot, je ne sais trop où, l'eau allait nous, et puis on doit être allongé pour que ça monte. Le rabbi aussi, il dort. Mais il dort debout, devant la fenêtre, il est debout, comme une statue de marbre, d'accord ? Et la neshama, elle monte. C'est-à-dire qu'il va recevoir toutes les forces dont il a besoin pour la journée qui suit. Après, il va pouvoir répondre en moyenne à 1000 lettres par jour, recevoir en moyenne entre 200 et 300 personnes par jour, d'accord ? Répondre à par les lettres plus ou moins à 2 ou 3 ou 4 000 questions d'Alachot par jour, et donner en moyenne 7 à 8 heures de cours par jour, etc., etc., etc. Mais pour ça, il lui faut des forces inimaginables, pendant 50 ans sans une heure de vacances. Ok, il est comme ça. Mais vous comprenez que on a affaire à des dimensions qui... On peut poser des questions, comment, est-ce que la rabbinite est d'accord, elle n'est pas d'accord, etc. Donc je vous dis presque que c'est pour la question qui au départ était un petit peu, on pourrait dire, mal placée. Parce que il faut comprendre une fois pour toutes que quand on parle de gens de cette dimension-là, ça échappe complètement à la catégorie. C'est ce que finalement dit le texte. Nous, on ne pouvait pas, d'une certaine manière, résumer mieux qu'aujourd'hui tout ce qu'on a étudié. Il y a des neshamot de Hatzilut qui sont constamment, on pourrait dire, en communion et en communication et en connexion avec la source. Et ils ne voient plus du tout le monde comme nous on le voit. Une relation homme-femme, une relation homme-homme, une relation homme-Dieu n'a plus rien à voir avec notre manière à nous de voir. Et il y a en dessous de ça, la grande majorité des êtres humains qui sommes nous, qui certains appartiennent aux lames de la Bria, d'autres aux lames de la Yetzira, d'autres aux lames de la Asiya. Et dans chaque monde, il y a je ne sais combien de sphirot et de décompositions de sphirot. Ce qui a fait aussi la différence entre chacun d'entre nous autour de cette table-là. Il y en a qui sont dans le Netzar de Asiya, il y en a qui sont dans le Hod de Asiya, il y en a peut-être certains d'entre nous qui sont déjà au niveau du Olam Yetzira. Peut-être qu'il y en a qui sont au niveau du Olam Abriya, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que on est tous des Neshamot qui ne proviennent pas du Olam Atzilut. Car si on venait du Olam Atzilut, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais on serait déjà
prédestiné à ce monde.
Oui, certain. Mais attention, prédestiné à ce monde, mais pas destiné au bien de ce monde. La preuve, le fameux exemple qu'on rapporte toujours, Bilam. Bilam était une Neshama de Atzilut, mais il s'est servi de ses pouvoirs surnaturels pour faire le mal. Ça veut dire que évidemment qu'une âme de Hatzilut, ça ne s'invente pas. Mais tu peux devenir la plus grande crapule de la génération avec une âme de Hatzilut. Tu peux devenir un faux prophète. Tu peux devenir le fondateur d'une religion mensongère qui va durer 2000 ans ou plus avec une âme de Hatzilut. Tu peux avoir des élèves et te mettre autour d'une table et avoir une auréole sur la tête, etc. Tu peux être un homme gigantesque avec une âme de Hatzilut, mais ça ne prouve pas encore que tu vas l'utiliser dans le bien. On a l'exemple le plus célèbre qui est Bilam. Bilam qui était l'équivalent de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire oui, on est prédestiné au potentiel qu'on a, mais non, ce n'est pas décidé comment on va l'utiliser. Et le rabbi aurait pu très bien, que Dieu me pardonne, mais s'il n'avait pas fait les bons choix, il aurait pu devenir le fondateur d'une religion idolâtre qui aurait duré 2000 ans. Comprenez ? Il avait le potentiel pour y arriver. Mais heureusement pour le monde, il a utilisé ce potentiel-là dans le bien.
Ses disciples, comment ? Pas toujours.
Comment ?
Ses disciples, pas toujours.
Et alors, il faut les brûler dans ce cas-là. D'accord ? Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.